chapitre 1, versets 5 à 9. Je t'ai laissé en Crète afin que tu mettes en ordre ce qui reste à régler et que tu établisses des anciens dans chaque ville en suivant mes instructions. Des hommes irréprochables, fidèles à leurs femmes, dont les enfants soient croyants et ne soient pas accusés de débauche ou insoumis. En effet, en tant qu'intendant de Dieu, il faut que le responsable soit irréprochable. Il ne doit pas être arrogant, colérique, buveur, violent, ni attiré par le gain. Il doit au contraire être hospitalier, ami du bien, réfléchi, juste, saint, maître de lui. Attaché à la parole, digne de confiance telle qu'elle a été enseignée, afin d'être capable à la fois d'encourager les autres par la saine doctrine et de réfuter les contradicteurs.
Merci Elvin. Alors, comment choisir de bons leaders? Comment choisir de bons conducteurs? Alors, c'est à cette question que nous allons essayer de répondre ce matin. Alors, je ne sais pas si vous vous souvenez, mais en octobre 2009, une affaire a défrayé la chronique. Alors, essayez de... Voilà. L'établissement public pour l'aménagement de la Défense, l'EPAD, se cherchait un nouveau président. Et il se trouve que Jean Sarkozy, le fils du président de la République, a annoncé sa candidature. Alors ses partisans mettaient en avant les arguments suivants. Jean Sarkozy était jeune, beau, mais surtout dynamique, performant. Alors, pour choisir un bon leader, voilà des critères qui peuvent sembler pertinents. On pourrait en ajouter d'autres, tels que les diplômes, l'intelligence, le charisme, etc. Notre société prône de telles valeurs pour décider de ses leaders. Mais selon Dieu, qu'est-ce qu'un bon leader ? Quelle sorte de responsable le Seigneur souhaite-t-il donner à ses églises? Alors l'apôtre Paul répond à cette question dans notre texte de ce matin. Il demande à Tite de désigner des responsables dans chaque église de Crète. Verset 5. Je t'ai laissé en Crète afin que tu mettes en ordre ce qui reste à régler et que tu établisses des anciens dans chaque ville. Donc les églises de Crète sont toutes jeunes. Elles ont besoin d'être structurées, d'être organisées, notamment en étant dotées d'anciens, c'est-à-dire de responsables. Des personnes instituées, reconnues officiellement comme des responsables de l'Église. Et Paul précise les critères qui doivent guider le choix des responsables d'Église. Alors, avant d'examiner en détail ces critères, un bref rappel du contexte. La photo de présentation choisie pour illustrer cet épître est très parlante. Un pommier chargé de pommes bien mûres. Un arbre qui porte des fruits. Voilà le cœur du message de l'épître à Tite. La véritable foi produit des fruits. L'Évangile, lorsqu'il est cru et vécu, se traduit par des vies transformées. Les belles œuvres caractérisent une bonne compréhension de l'Évangile. Alors ce rappel éclaire notre passage, car nous allons voir que les responsables de l'Église sont tout simplement des chrétiens mûrs dans leur foi. Alors bien entendu, ils ont des responsabilités spécifiques, mais avant tout, ce sont des personnes qui ont compris l'Évangile, qui le vivent et qui le transmettent fidèlement. Et cela doit changer notre approche du texte. En effet, ce passage ne concerne pas uniquement les responsables. Il ne s'adresse pas seulement à Trevor, Sylvain et Mickaël. Ce n'est pas non plus un simple catalogue des critères pour choisir des anciens. Avant tout, ces versets nous présentent le portrait d'un chrétien mûr. le portrait d'un chrétien qui met en œuvre sa foi, qui porte des fruits. Ce faisant, ce texte donne un exemple à suivre. Ce portrait du chrétien mûr, eh bien, c'est un exemple pour nous tous. Et alors, c'est cet exemple que je vous propose de voir maintenant. Alors, voilà la feuille de route. Une réflexion en trois temps. Pour Dieu, un bon leader, c'est verset 6. D'abord, un chrétien mûr dans ses relations familiales. Puis, versets 7 et 8, un chrétien mûr dans sa manière de vivre. Et enfin, verset 9, un chrétien mûr grâce à son attachement à la parole. Alors, voyons ce qu'est un chrétien mûr. Donc, d'abord, le verset 6... Le responsable, un chrétien mûr, dans ses relations familiales. Alors, deux aspects des relations familiales sont cités dans le texte. D'abord, la relation entre l'ancien et sa femme, et ensuite, la relation entre l'ancien et ses enfants. Alors d'abord, le responsable et son épouse. Le verset 6 déclare que le responsable doit être fidèle à sa femme. Alors décidément, les chrétiens sont des rabat-joie. L'adultère, est-ce si grave? C'est humain. L'important, c'est de ne pas se faire prendre. Voilà ce que nous entendons souvent. Car notre société semble avoir définitivement tiré un trait sur la fidélité. Notamment celle des hommes qui nous gouvernent. Alors, Bill Clinton, Silvio Berlusconi, Dominique Strauss-Kahn. La liste est longue. Tous ces responsables ont été pris en flagrant délit d'adultère. Ce sont des infidèles notoires. Pourtant, nous continuons à attendre d'eux qu'ils soient fidèles à leurs engagements politiques, comme si de rien n'était. Si bien que leurs frasques ne portent même pas préjudice à leur carrière. Alors cette logique est celle de notre monde, mais pas celle de Dieu. Dieu exige des responsables qu'ils soient fidèles à leurs épouses. L'ancien ne doit avoir qu'une seule femme dans sa vie. En se mariant, il a pris un engagement unique, définitif, envers sa femme. Celui de l'aimer, de prendre soin d'elle, de la protéger. Et l'ancien doit rester fidèle à cet engagement. Il ne doit pas tromper sa femme. Mais tromper, ce n'est pas seulement avoir un rapport sexuel avec une autre femme. L'impératif de fidélité va bien au-delà. Ne pas tromper sa femme, c'est aussi ne pas avoir des sentiments pour une autre femme. Ne pas tromper sa femme, c'est aussi ne pas entretenir des désirs pour d'autres femmes. L'ancien veille en permanence à préserver l'exclusivité de sa relation avec son épouse, dans ses actes, dans son cœur, mais aussi dans ses pensées. Et il manifeste ainsi une qualité centrale de l'Évangile, l'amour. Parce que rester fidèle à sa femme, c'est aimer son prochain le plus proche, c'est rechercher son bien, c'est savoir sacrifier ses désirs, ses envies, par amour pour elle. Et il se trouve qu'une personne qui sait vivre cet amour et cette fidélité envers sa femme saura aussi les vivre envers l'Église. Après le responsable et ses enfants et sa femme, le responsable et ses enfants. Le verset 6 ajoute que le responsable doit avoir des enfants croyants et qui ne soit pas accusé de débauche ou insoumis. Alors cette exigence peut nous déconcerter. Comment exiger de quelqu'un la foi, la bonne conduite d'autres personnes? En fait, cette demande de Paul a un double motif. D'abord, Paul souhaite s'assurer que l'ancien assume ses responsabilités d'enseignant. L'ancien doit avoir déjà fait ses preuves en enseignant sa propre famille, prouvant ainsi à la fois l'amour qu'il porte pour ses enfants, mais aussi sa capacité à enseigner. Ensuite, Paul souhaite s'assurer que l'ancien assume ses responsabilités de chef. Si ses enfants se livrent à la débauche, c'est que son autorité de père n'est pas respectée. Or, la fonction d'ancien implique justement l'exercice de l'autorité dans l'Église. Comment un homme qui n'arrive pas à se faire respecter de ses enfants pourra-t-il diriger une Église ? Quoi qu'il en soit, avec sa femme ou avec ses enfants, on s'aperçoit que l'expérience familiale est très révélatrice de notre degré de maturité spirituelle. D'abord parce qu'on ne triche pas avec les personnes que l'on côtoie tous les jours, et ensuite parce que la famille est, ou en tout cas devrait être, le lieu d'exercice privilégié à la fois de l'amour, mais aussi de l'autorité. Alors vivons-nous des relations familiales qui reflètent notre foi ? Est-ce que notre compréhension de l'Évangile a amélioré nos relations familiales ? Pour Dieu, le bon leader, c'est celui qui fait preuve de maturité dans ses relations familiales, mais pas seulement là. Sa maturité spirituelle doit se retrouver dans toute sa manière de vivre. Et c'est notre seconde partie. Versets 7 et 8, le responsable, un chrétien mûr dans sa manière de vivre. Alors, relisons les versets 7 et 8. En effet, en tant qu'intendant de Dieu, il faut que le responsable soit irréprochable. Il ne doit pas être arrogant, colérique, buveur, violent ni attiré par le gain. Il doit au contraire être hospitalier, ami du bien, réfléchi, juste, sain, maître de lui. Alors là encore, notre réflexion se fera en deux temps. D'abord, nous allons nous demander ce que ça signifie être un responsable irréprochable. Et dans un second temps, nous détaillerons les qualités d'un ancien. Alors qu'est-ce qu'un responsable irréprochable ? L'apôtre Paul, nous le voyons, demande à Tite de désigner des responsables irréprochables. Et ce qualificatif, on le trouve déjà au verset 6. Le double emploi de ce qualificatif souligne son importance. Car le qualificatif irréprochable semble en effet devoir résumer la manière de vivre de l'ancien. Reste à savoir ce que signifie être irréprochable. Est-ce que Paul attend des anciens qu'ils soient parfaits ? Les anciens doivent-ils témoigner d'une surhumaine impeccabilité ? Alors j'ai beaucoup de respect pour les anciens de cette église. Pour autant, puis-je dire qu'ils sont parfaits ? Alors il se trouve que je suis récemment parti en vacances avec l'un de nos anciens, mais bien sûr je ne vais pas dire son nom, pour préserver son anonymat, et j'ai constaté que malgré de nombreuses qualités, il possède aussi des défauts. Ah, je suis sûr que vous souhaitez avoir des exemples, eh bien, pas de problème. Donc je vais diffuser sa photo, mais sans révéler son nom, bien entendu. Alors, par exemple, alors qu'il aurait dû méditer un ouvrage passionnant sur les pères apostoliques, je l'ai surpris en train de faire la sieste. C'est un flagrant délit de paresse. Bon, rappelons qu'il était en vacances, hein, tout de même. Mais en tout cas, non. Irréprochable ne signifie pas parfait. Paul n'a pas en vue une perfection morale absolue. D'ailleurs, sa manière de parler de lui-même nous rassure sur ce point. Paul ne s'est jamais considéré lui-même comme parfait, au contraire. Il se désigne parfois comme un avorton, d'autres fois comme un persécuteur de l'Église. Alors comment aurait-il pu exiger de la part des autres cette perfection qui n'est pas la sienne ? Ici, irréprochable signifie plutôt inattaquable, c'est-à-dire c'est l'absence de taches manifestes sur la réputation. L'ancien doit jouir d'une bonne et d'une solide réputation. Néanmoins, être irréprochable reste un défi. Paul ne brade pas la fonction d'ancien. Il en a une haute estime. Et il la réserve aux chrétiens les plus mûrs, comme le montre la liste des qualités attendues de leur part. Alors, quelles sont les qualités d'un responsable ? C'est le deuxième temps de cette deuxième partie. Là où notre société glorifie les diplômes, la performance, l'ambition, l'activisme, Dieu, lui, regarde à d'autres qualités. Pour Dieu, un bon leader ne doit pas être arrogant, colérique, buveur, violent, ni attiré par le gain. Il doit au contraire être hospitalier, ami du bien, réfléchi, juste, saint, maître de lui. Alors toutes ces caractéristiques dessinent le visage d'un chrétien mûr. Et cela nous donne une vision très pratique d'une vie transformée par l'Évangile. Mais cette description nous lance surtout un énorme défi. Car ces caractéristiques ne sont rien de moins que les déclinaisons, les applications des deux grands commandements de Dieu. Tu aimeras ton Dieu et tu aimeras ton prochain comme toi-même. D'abord, tu aimeras ton Dieu en étant humble, en étant juste, en étant saint, en aimant le bien, en refusant les idoles, notamment les addictions telles que l'alcoolisme ou la cupidité. Ensuite, tu aimeras ton prochain comme toi-même, en n'étant ni colérique, ni violent dans tes rapports avec l'autre, mais en te montrant réfléchi, maître de toi-même, et prêt à accueillir l'autre. Alors nous l'avons dit, vivre cela est un énorme défi. Un défi qu'aucun chrétien, même le plus mûr, ne peut relever totalement. Mais le chrétien s'efforce de le faire en comptant sur la grâce de Dieu. Alors qu'en est-il de nous ? Avons-nous renoncé en la matière ? Ces qualités sont-elles bonnes que pour les autres ? Est-ce que nous voulons progresser en maturité spirituelle ? Alors j'espère que nous avons tous cette volonté, car elle est importante. Toutefois, même si nous avons cette volonté, elle ne suffira pas. Car la maturité chrétienne ne s'acquiert pas par la seule volonté. Et nous en arrivons à notre dernière partie. Le responsable, un chrétien mûr grâce à son attachement à la parole. Alors nous verrons d'abord la qualité principale du responsable, avant de voir la mission qui lui est confiée. La qualité principale d'un responsable, d'un chrétien mûr, c'est l'attachement à la parole de Dieu. Verset 9. Le responsable doit être attaché à la parole digne de confiance, telle qu'elle a été enseignée. Paul termine ici la liste des qualités attendues d'un responsable. Mais alors que les autres qualités étaient simplement énumérées, ici Paul va consacrer un verset entier à cette dernière qualité. Et il le fait pour souligner son caractère fondamental. Car de l'attachement à la parole dépendent toutes les autres qualités. Le terme « être attaché » signifie littéralement « tenir fermement serré », comme on le fait pour ce que l'on a de plus cher. Le chrétien mûr fonde sa vie sur la parole de Dieu, car il sait que seule cette parole peut le transformer. Notre volonté, notre persévérance, nos efforts, tout cela est très bien. Pourtant, la maturité spirituelle ne se gagne pas. Elle se reçoit. La maturité spirituelle est l'œuvre de la parole de Dieu en nous. Cette parole transforme, éclaire, fait grandir. Et c'est en la croyant, en la comprenant, en la laissant transformer nos vies, que le croyant gagne en maturité. L'attachement à la parole est donc la principale qualité du responsable. D'autant plus que l'ancien doit assumer une responsabilité spécifique, celle d'enseigner cette parole aux membres de l'Église. Et nous terminerons par cette mission de l'ancien, l'enseignement. Alors cette mission d'enseignement est double. Elle consiste à la fois à édifier les autres chrétiens tout en les protégeant de l'erreur. Verset 9. Encourager les autres par la saine doctrine et réfuter les contradicteurs. Encourager les autres. L'enseignement des anciens n'est pas un simple exposé intellectuel. Le verbe « encourager » évoque une exhortation à mettre en pratique, un enseignement qui cherche à faire du bien aux autres, notamment en les maintenant dans la vérité de l'Évangile. Mais l'enseignement de l'ancien vise aussi à réfuter les contradicteurs. Ceux qui s'opposent à l'Évangile doivent être fermement repris. Et le terme « réfuter » employé ici évoque l'idée d'une condamnation de ces contradicteurs, leur adresser des reproches, car ils menacent l'Église, et c'est ce que nous verrons la semaine prochaine en détail. Le responsable, selon Dieu, fonde sa vie sur la parole, et il enseigne et dirige l'Église dans le respect et la soumission à cette parole. Alors il nous faut conclure. Qu'est-ce qu'un bon leader, selon Dieu ? Eh bien, un chrétien qui fait preuve de maturité spirituelle, c'est-à-dire qui croit et qui vit l'Évangile. Alors, au regard de cela, la tâche peut paraître lourde. Il se trouve qu'elle l'est. Alors, doit-on se sentir écrasé ? Au cœur de l'épître de Tite, de l'épître à Tite plutôt, se trouvent deux versets très importants. Chapitre 2, versets 11 et 12. Voilà ce que disent ces deux versets. « Car elle s'est manifestée, la grâce de Dieu, source de salut pour tous les hommes. Elle nous apprend, c'est elle qui nous apprend, à renier l'impiété et les désirs de ce monde et à vivre dans le temps présent d'une manière pondérée, juste et pieuse. C'est la grâce de Dieu qui nous apprend à devenir des chrétiens mûrs. Ce matin, nous avons vu une liste d'exigences morales, mais elles n'ont de sens que parce que la grâce de Dieu s'est manifestée. La nécessité d'une maturité chrétienne ne doit jamais être déconnectée de la croix. Sinon, on tombe dans le légalisme. Or, le comportement chrétien n'est pas un respect formel de règles de bienséance. Tout au contraire. La maturité chrétienne, c'est l'épanouissement d'une création nouvelle dans la vie de tous les jours. La maturité chrétienne, c'est le fruit que produit une foi sincère dans la personne et l'œuvre du Christ. Alors que Dieu enracine en nous sa grâce, qu'il nous aide à être attachés à sa parole et qu'il fasse de nous des chrétiens mûrs spirituellement, des chrétiens dont la vie est transformée, des chrétiens qui portent du fruit. Je vous invite à terminer par la prière.